Bonsoir les amis des livres et des apéros. Au Moyen-Âge, la femme est soumise, forcément victime. Noble, elle est cantonnée à des parades. Paysanne, elle est astreinte au labeur. Prendre une épée, gérer un domaine, commander, non mais vous n'y pensez pas. La guerre, la violence, l'argent sont des affaires d'hommes. Mais pas du tout, s'exclame la littérature. Oh, mais j'en ai ras la côte de maille de ces clichés. Mais qu'est-ce qu'elle est moyenne, cette Dupont-Monod. Mais c'est l'inverse, regardez du côté des livres. Le Moyen-Âge adore les femmes frondeuses. Les troubadours ont célébré Aliénor d'Aquitaine, surnommée l'Aiglesse, qui délaissa son premier mari et déclara la guerre au second. Ils saluèrent aussi Anne de Bretagne, chef politique hors pair. Le best-seller de l'époque, Tristan et Iseut, montre une Iseut assez indépendante pour déjouer les règles. Quant à l'amour courtois, je rappelle qu'il pose une femme toute puissante à qui le chevalier doit obéir. Et elles pouvaient même être pirates, ces femmes. La preuve, avec un roman sur la première femme pirate de notre histoire, il s'appelle « Pour ce qu'il me plaît », il est signé Laure Buisson, paru chez Grasset. Elle s'appelle Jeanne de Belleville. Elle voit le jour en 1300. Jolie petite fille bien née, elle grandit avec tous les égards dus à son rang. Jusqu'au jour où son mari est décapité. Bon, alors là, Jeanne, elle voit rouge. Elle s'embarque sur un bateau. Objectif, faire régner la terreur. Surnommée la Lionne sanglante, elle écume la côte atlantique avec ses deux fils, pourtant petits mais bien armés. Pendant ce temps, la guerre gronde entre la France et l'Angleterre. Cette Jeanne de Belleville a vraiment existé, et la voilà qui ressuscite sous nos yeux, charriant avec elle un Moyen-Âge truculent qui respecte la parole donnée et qui ne redoute pas les excès. Ha ! Prends-en de la graine 2017. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Laure Buisson, trois fois rien, un verre d'hydromel, quelques sangliers rôtis. Elle nous fera naviguer parmi ses secrets d'écriture, ce sera le procès-verbal, lancera l'abordage de ses goûts culturels cachés, ce sera les inavouables, avant qu'un libraire à la proue de tous nos navires ne vienne apaiser nos tempêtes et enfin jeter l'ancre.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir Laure Buisson.
Bonsoir Clara.
Avant Jeanne de Belleville, il n'y avait pas de femme pirate.
Si, mais on ne sait pas si elle a réellement existé. En fait, c'était une princesse viking qui s'appelait Alvida, qui commandait un bateau où il n'y avait que des femmes et qui s'était enfuie parce que son père, roi viking, voulait la marier avec un homme qu'elle n'aimait pas. Après, on n'a jamais su si c'était de la légende ou si c'était une vérité. Donc, je pars du principe que moi, ma Jeanne de Belleville, puisque moi, j'ai retrouvé des archives et des livres sur elle, donc du coup, je pars du principe que c'est la première femme pirate.
Quel âge elle a quand elle embarque pour la première fois ?
C'était en 43, donc elle a 43 ans.
Avant de monter sur un bateau, est-ce qu'elle connaît quelque chose à la mer ?
Rien du tout, mais comme la plupart des gens à cette époque, ils naviguaient un peu en regardant les étoiles, en sondant la mer avec un bout de bâton. Personne ne savait réellement naviguer comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de sextant. Il y avait, ou si, il y en avait, mais c'était les navigateurs au long cours qui avaient ce genre d'instrument qui venait effectivement d'Orient. Mais Jeanne de Belleville, elle n'avait pas tout ça.
Donc même moi, je pourrais être pirate.
Exactement. Mais vous en êtes une.
Oh. Une attaque de bateau a lieu. Jeanne et ses hommes envahissent le pont. Je vous cite, ils cognent sans arrêt, même les morts, ils continuent à les cogner pour être sûrs qu'ils ne se relèveront pas. Ils ne veulent pas faire de prisonniers, ne cherchent pas à récupérer de rançon, ils sont là pour les saigner comme des lapins. Et cette femme qui se bat comme un homme et semble tout diriger. Fin de citation. Laure Buisson, si Jeanne n'attaque pas pour s'enrichir, elle attaque pour quoi ?
Pour se venger. Elle a été humiliée parce que son mari, donc Olivier de Clisson, a été décapité pour haute trahison. Non seulement il a été décapité, mais son corps a été donc pendu au gibet de Montfaucon et sa tête a été envoyée à Nantes et empalée sur une pique et exposée en haut d'une tour, sur les remparts. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris ses enfants, elle les a emmenés devant la tête de leur père ensanglantée et elle leur a montré la tête en leur disant « Voilà ce que le roi de France a fait à votre père, donc maintenant c'est à nous de le venger ». En fait, elle fait ça uniquement par vengeance. Ce qui l'intéresse, c'est tuer. Elle veut faire couler le sang français.
Alors, vous écrivez, les femmes ont pour habitude de demander pardon, pas toi. Vous parlez donc à Jeanne de Belleville. Et ça, c'est à rebours de toute une imagerie de la femme du Moyen-Âge, défendue notamment par l'historien médiéviste Michel Zinc.
Dans certains poèmes, Aliénor d'Aquitaine est appelée Midons, Monseigneur, mais toutes les femmes, dans tous les poèmes d'amour en Languedoc, arrondiras, on peut le retourner, parce que si on éprouve le besoin de leur dire Monseigneur, c'est qu'on trouve que le Seigneur est mieux que la dame. Mais d'autre part, les femmes exerçaient, enfin, avaient des droits juridiques, civils, financiers, politiques, considérables. Et si on était obligé d'aller inventer la loi salique pour empêcher que le roi d'Angleterre devienne roi de France, c'est parce que ça n'allait pas de soi d'empêcher une femme de devenir reine, de devenir le souverain. Dans tous les pays, ça se faisait, ça ne posait pas de problème.
Voilà, Michel Zinc. Alors, sans aller dire peut-être que le Moyen-Âge était féministe, Lorbuisson, on peut dire que les femmes au Moyen-Âge, en tout cas, pouvaient égaler les seigneurs de guerre. C'est ça, Jeanne de Belleville.
Oui, tout à fait. Bah oui, elle lève une armée.
Quand elle est veuve, elle gère un domaine.
Elle gère aussi ses propres terres à elle, puisque à un moment, son père meurt, son frère meurt, donc elle se retrouve à la tête de toutes les terres de Belleville, qui étaient à l'époque considérables. Donc non seulement elle gère les terres de son mari, parce qu'ils sont quand même très souvent en tournoi, à la chasse, à la guerre, donc il fallait bien que quelqu'un gère tout ça. Donc elle gère les terres de Clisson et les terres de Belleville.
Et c'est situé où aujourd'hui, pour nos auditeurs, à peu près?
Alors, Clisson, c'est en Loire-Atlantique, et Belleville, c'est dans le Poitou. Mais ils avaient quasi un empire, tous les deux, entre la Bretagne et le Poitou. Et leurs terres étaient en plus, la plupart de leurs forteresses étaient situées sur ce qu'on appelait les marches. C'était les frontières. Donc, ils avaient une fiscalité intéressante parce qu'ils étaient un peu les yeux et les oreilles des ducs et des rois pour savoir si les envahisseurs allaient arriver.
Donc ils avaient un rôle important.
Donc ils avaient un rôle très très important. Les seigneurs des marches étaient des gens très puissants à l'époque.
Tout au long du livre, vous ne dites pas « elle », vous ne dites pas non plus « je », mais vous dites « tu ». Et c'est assez peu fréquent dans la littérature française. Et ça vous fait un point commun, figurez-vous, avec Georges Perec. Il y a pire comme parenté.
Oui,
mais il a écrit « Un homme qui dort » en 1967. C'était à la seconde personne du singulier.
À chaque instant, on a cette possibilité. J'avais cette impression que c'était moi qui me parlais. C'est-à-dire que le « tu » est une espèce de « je », tout le temps. Et en même temps, il est l'impression que le lecteur allait le recevoir comme étant à la fois moi et lui. Il y avait une espèce de très grande sympathie entre le personnage, le lecteur et moi-même.
La voix de Georges Perec.
C'était émouvant.
Oh là là. En avril 1970, sur France Culture, est-ce que pour vous, c'est comme pour lui, le « tu » est une espèce de « je » ?
Il se trouve que j'ai toujours eu des rapports avec mes héroïnes un peu particulières. On peut même dire que je suis un peu dingue avec elle, parce que, vous savez, c'est un peu comme des voisines qui s'installent en face de chez moi, et puis elles commencent par venir prendre l'apéro à la maison, on s'entend bien, on discute, tout ça, et puis au bout d'un moment, elles sont tout le temps chez moi. Donc, en fait, j'ai ce rapport avec mes héroïnes. Et avec Jeanne de Belleville, au début, j'ai commencé à écrire ce livre à elle, donc à la troisième personne. J'ai écrit 60 pages et ça n'allait pas. Je la sentais très, très éloignée de moi. Il y avait quelque chose. Je m'ennuyais en écrivant, ce qui est quand même un peu ennuyeux aussi. J'ai arrêté d'écrire. Et puis, d'un seul coup, je me suis levée un matin en me disant « Mais cette femme, finalement, après qui tu cours depuis 6 ans, il faut que tu lui racontes sa propre histoire. » Donc, du coup, c'est comme ça, en fait. C'est un dialogue que j'ai voulu créer avec elle. J'ai voulu lui raconter sa propre histoire parce qu'en plus, elle est très peu connue, à part en Bretagne. Et je me suis dit qu'elle le méritait. Et pour la petite anecdote, j'ai appelé mon éditeur pour lui dire « Au fait, il faut que je te dise, j'ai changé, c'est plus elle, c'est tu. » Il y a eu un grand blanc. Et il me dit « Est-ce que je peux voir ce que tu as commencé ?» Parce que ça peut être très, très chiant, un livre à la seconde personne du singulier.
En tout cas, c'est un risque.
C'est un risque, mais je me sentais extrêmement à l'aise parce que je parlais avec elle, en fait.
Sa devise, pour ce qu'il me plaît, elle vient de son mari, elle donne le titre du livre. Pourquoi ? Parce que ça lui correspond ?
Ah oui, complètement. Oui. Et vraiment, je me suis battue pour que ce titre reste parce que ça a été une évidence. Quand je suis tombée sur la devise des Clisson, qui est la sienne puisqu'elle devient dame de Clisson, je me suis dit, il ne peut pas y avoir d'autre titre que celui-ci.
Et voilà. C'est pour ce qu'il me plaît, avec un S. Jeanne de Clisson, elle devient donc pirate par vengeance. C'est donc qu'elle aimait son mari.
Oui.
Leur lien, c'est quoi ?
Je pense que l'amour peut prendre différentes formes. Elle était veuve. Elle a eu un premier mari qu'elle a épousé à l'âge de 14 ans, qui est mort. Elle était seule, avec donc ce fameux territoire de Belleville à gérer. Et je pense qu'elle a vu en Olivier de Clisson un seigneur très puissant, qui, je pense, était quelqu'un d'assez arrogant, assez bel homme aussi. Enfin, quand on voit les gravures de son fils, on peut se dire que lui aussi était bel homme. Et je pense qu'elle a senti qu'il pouvait la protéger et qu'ensemble, ils pourraient faire un grand bout de chemin. Et je pense qu'Olivier de Clisson a senti la même chose chez elle, qui était quand même une héritière très fortunée aussi.
Mais en même temps, quand on la voit sur son bateau et qu'elle elle saute sur les ponts des bateaux adverses et qu'elle trucide tout le monde, elle tue, mais elle attend quoi ? Parce qu'il est mort, son mari.
La vengeance, elle attend la vengeance. Et puis aussi, elle veut récupérer tous les biens qui lui ont été spoliés par le roi de France. Elle veut que son fils redevienne le seigneur de Clisson, puissant, comme son père l'avait été. Donc c'est pour ça qu'elle se bat aussi après.
Et elle emmène ses fils sur
elle
le
emmène
bateau.
Ses fils, oui, elle leur apprend à trancher les têtes, trancher les pieds.
Et ils jouent un moment avec une tête tranchée, oui. Ce que n'aurait peut-être pas forcément validé Françoise Dolto comme type d'éducation. Mais c'est l'idée aussi qu'elle infuse en eux l'idée de revanche sociale à un moment.
Bien sûr. Bah, quand elle leur montre la tête sanguinolente de leur père et qu'elle leur dit « c'est à nous de le venger », c'est quand même déjà qu'elle veut que eux aussi mènent le combat avec elle. Hein. Et elle veut qu'il y ait une relève. Si jamais il lui arrive quelque chose, au moins ses fils continueront à se battre jusqu'à retrouver leur titre.
On peut dire qu'elle n'a pas peur de la violence.
Non.
C'est pas quelque chose qui la rebute.
Non, puis elle n'a pas peur de la mort non plus.
Elle a eu un premier fils de son premier mariage. Il
oui.
s'appelait Geoffroy.
Oui.
Et il se trouve qu'il va devenir son adversaire.
Oui.
Comment on explique ça ?
Parce que je pense qu'à l'époque, ça arrivait très souvent dans les familles. Mais est-ce que ça n'arrive pas aussi aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord politiquement ?
Eh ben voilà, vous renversez toutes les règles de la parenté. Bravo, Laure Buisson. On s'est demandé en tout cas ce qu'écouterait Jeanne de Belleville à bord de son bateau. On a cherché, on a pensé à Albator. Je plaisante, non, encore que. On s'est creusé le foulard et on a trouvé Cœur de pirate.
Ah, mais bien
évidemment.
Sûr.
Tatouée comme un corsaire. Et en plus, elle chante Adieu. Et on s'est dit que ça résonnait comme la voix de Jeanne de Belleville.
Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour, le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien.
Sur France Inter.
Laure Buisson est avec nous jusqu'à 20h pour son roman « Pour ce qu'il me plaît », l'histoire de la première femme pirate de notre histoire. Elle s'appelle Jeanne de Belleville, elle est née en 1300. Avant de naître, Jeanne, elle était attendue et sacrément attendue par sa mère. Et vous racontez que enceinte, sa mère faisait très attention et par exemple, elle évitait les plats épicés ou alors la vue d'un infirme. Pourquoi ?
Parce que la vue d'un infirme, ça peut lui causer des émotions. En fait, ce dont les médecins, mais à l'époque l'entourage, avaient peur que les femmes enceintes aient des émotions trop fortes. Donc, une peur. Un infirme pouvait créer une peur, par exemple. Et du coup, l'enfant aurait pu être infirme lui-même. Il fallait pas manger trop épicé non plus pour pas qu'il ait des problèmes de santé. Il y avait tout un tas de choses comme ça. Et les femmes au Moyen-Âge, en fait, étaient extrêmement entourées et quasi calfeutrées pour leur éviter la moindre émotion. Il fallait pas qu'elles rient trop fort. La vue d'une chandelle, par exemple... Le fait qu'elles aillent elles-mêmes éteindre une chandelle, ça pouvait trop les fatiguer. Donc, il fallait surtout pas.
Oh, mais je vais être enceinte au Moyen-Âge. En fait, on se faisait servir. Merveilleux.
Oui, en même temps, on était quand même... On devait peut-être s'ennuyer un peu, non?
Oui. Elle a de qui tenir, hein, Jeanne. Hein. Parce que sa mère... Oh, sa mère...
Ah oui, elle avait une cour d'amour.
Oh là 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 là, dame de Montaigu.
Oui.
Fara une veste drainienne Nun de mini d'autre agenne Nun d'amour
Le poème « Je ferai des vers de pur néant » en occitan de Guillaume le Troubadour, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine d'ailleurs, inventeur aussi de l'amour courtois. La mère de Jeanne, c'est un rêve d'amour courtois, on peut l'avoir comme ça ?
Ah oui, complètement. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, il y avait un troubadour qui se mourait d'amour pour elle. Qui a écrit, d'ailleurs j'ai mis dans le livre quelques citations, et à qui elle n'a jamais visiblement porté aucun intérêt, puisque il finit très très mal, le pauvre.
En tout cas, c'est une mère indépendante, une femme indépendante, donc ça va quand même à rebours aussi de toute une imagerie...
Ouais. Oui, qui refuse de se remarier, enfin, elle reste seule dans son château de Paluau, avec les troubadours, ses amis, les jongleurs... Elle mène une vie de veuve joyeuse.
Et Jeanne grandit, elle reçoit une éducation en latin. Ça, c'est quand même la seconde idée reçue que vous balayez, Laure Buisson, c'est qu'on était lettrés au Moyen-Âge.
Bien sûr, bien sûr.
Ce n'était pas forcément le côté petite princesse décérébrée.
Non, on apprenait à jouer aux échecs aussi. De toute façon, il fallait que les femmes soient formées entre guillemets, pour gérer les châteaux et les forteresses quand les hommes n'étaient pas là. Donc il fallait bien qu'elles aient quand même des rudiments de lettres, de calcul.
Jeanne, elle est élevée dans le savoir, dans le luxe. Et alors, il y a quelque chose de bizarre, c'est que quand elle devient pirate, elle se sépare de tout. Et sans le moindre regret. Donc fini les robes, les banquets, les tournois. Elle n'a pas peur du dénuement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Parce que je crois qu'on lui a tout pris quand son mari est mort. On lui a pris non seulement ses terres et puis son mari. Donc de toute façon, autant repartir à zéro pour tout reconquérir. Et puis elle n'avait plus rien. Donc pour acheter ce bateau, il fallait bien qu'elle vende ses derniers biens, ses bijoux et ses robes.
Et puis elle s'habille en homme.
Oui.
Elle range la soie, elle range la fourrure, elle enfile des habits masculins. Mmh. Ça, c'était un tabou au Moyen-Âge de s'habiller en homme quand on était femme.
Oui, c'est vrai. Mais c'était, je pense que sur un bateau aussi, c'était quand même plus pratique d'être avec des braies et une grande tunique plutôt que d'avoir une guimpe et des grandes robes.
Et comment est-ce que l'Église la voit ? Ils doivent être verts. C'est l'histoire d'une femme qui s'habille en homme, qui prend l'épée et qui va écharper tout ce qui compte de bateau autour d'elle.
L'Église le prend très très mal et puis ils la prennent pour une hérétique puisque, en fait, quand elle sème la pagaille sur les côtes atlantiques, le roi de France va se plaindre auprès du pape et le pape lui-même en fait intervient et demande au roi d'Angleterre, Édouard III, qui lui est trop content de la pagaille puisqu'on est quand même en guerre et trop content de la pagaille qu'elle mène sur les côtes atlantiques. Donc le pape demande à Édouard III, il lui dit « Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de calmer un peu Jeanne
de Belleville ?»
La furie, parce que...
Vous écrivez « Tu n'as plus de maison, tu as 100 maisons. Tu n'as plus de terre, tu as la terre. » Et ensuite, d'ailleurs, elle va voir la mer. Quel lien Jeanne entretient avec la nature ? Parce qu'on ne la sent pas très chrétienne, en fait, pour ne rien vous cacher. On la sent proche d'une espèce de paganisme. Elle a un lien avec la nature qui ne relève pas tellement de la chrétienté.
Je pense qu'elle était, comme la plupart des gens à l'époque, elle était chrétienne. Après, je pense qu'elle s'arrangeait aussi avec sa foi puisque ça l'empêchait pas de combattre violemment, de trancher les têtes, trancher les pieds. Mais quand même, le jour où elle doit attaquer un petit village autour qui s'appelle Locmariaker, qui est en Bretagne, donc qui veut dire le village de la Vierge, quand elle voit arriver la procession, ça c'est vrai, le curé du village s'est opposé à elle, il est arrivé avec ses fidèles, elle les a pas attaqués, elle a rebroussé chemin. Parce qu'elle s'est retrouvée face à un curé qui avait lui-même autant de foi qu'elle pouvait en avoir en son combat.
Mais quand vous dites ça c'est vrai, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez retrouvé un récit de l'époque qui raconte ça ?
Alors j'ai retrouvé, oui, plusieurs lignes, hein, parce qu'à chaque fois c'était jamais des récits complets, plusieurs lignes dans des archives. Et je sais que là, elle est allée à Locmariaker et qu'elle s'est arrêtée devant ce curé. Ça c'est vrai. Il n'y a pas que ça de vrai, l'architecture du livre, l'architecture historique du livre est vraie. Puis j'ai fait toutes les archives du Poitou, les archives de Bretagne, j'ai fait des archives anglaises aussi, mais il y avait quand même des trous, puisque le 14e, comme on me disait dans les bibliothèques, c'est loin, madame. Donc il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions, beaucoup de choses ont été perdues, volées, ont été brûlées. Donc, mais bon, je me suis acharnée et j'ai fini par trouver des choses sur elle. Mais j'avais des trous. Donc, ces trous-là, eh ben, je les ai comblés avec mon imagination.
Donc, c'est l'éternel accouplement entre l'histoire et la fiction, voilà, et le roman, qui n'est pas du tout opposé au travail d'historien.
Ah non, absolument pas.
Votre écriture, elle est païenne, Laure Buisson, parce qu'elle charrie... Ben oui, parce qu'elle est peut-être autant païenne que les Jeanne, mais elle charrie des odeurs, des parfums, du toucher, pour restituer une époque, en l'occurrence le Moyen-Âge. Est-ce que c'était fait exprès que votre écriture s'appuie comme ça sur les cinq sens ?
Oui, parce que je pense que le Moyen-Âge, enfin j'en suis même sûre, était une période extrêmement sonore, extrêmement odorante. Les gens se touchaient beaucoup aussi. On a une vision un peu... Moi, j'avoue que j'ai découvert un peu le Moyen-Âge, en fait, en étudiant Jeanne de Belleville. Les enfants étaient extrêmement câlinés. Il y avait de la sensualité.
Et c'était aussi un Moyen-Âge qui aimait la fête.
Qui aimait la fête, qui aimait danser.
Qui aimait danser. Et il y en a une qui l'a bien compris, c'est la série Kaamelott. Ah.
Non, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant... Alors, c'est pas que c'était mal foutu. Mais bon... On bouffait comme des porcs, on finissait à quatre pattes. C'est vrai que le printemps, c'était une notion assez vague quand même.
Même pas une fleur sur les tables.
Ah mais moi, si vous voulez des fleurs, c'est pas le plus compliqué, hein.
Merci, Venec, je prends les choses en main. On vous appellera pour la fête du cochon.
Ben, pour la fête du cochon, je m'excuse, mais vous bouffez comme des porcs et vous finissez à quatre pattes.
Oui, mais là, ça va. Là, on peut parce que c'est thématique.
Là, je vous vois plier de rire.
J'adore cette série, en fait. Je la regarde et la re-regarde, mais... indéfiniment, et à chaque fois, mais je j'éclate de rire parce que et tout est vrai. Enfin, ça correspond tellement aussi. Enfin, je veux dire, ils ont eu la force en fait de reprendre la légende arthurienne, d'en faire quelque chose de moderne, et en même temps, on peut pas dire qu'ils la trahissent totalement.
Mais vous avez fait la même chose avec le roman. Tout roman historique, à un moment, et oui, c'est ça. Mais c'est le principe. Mais ils ont rajouté de l'humour.
Ils ont rajouté de l'humour, oui,
mais
c'est vrai.
Mais c'est le travail de fiction qui vient danser un peu la rumba avec l'histoire et la trame chronologique officielle. Il y a des besants d'or et d'argent dans votre livre. Il y a des bas de côte ourlés de franges rouges. Il y a des passementeries jaunes. On était fou de mode à l'époque.
Oui. Et il y a plusieurs périodes. Il y a eu la période des robes décolletées. Il y a eu la période. Après, on a découvert aussi l'aiguille fine. Donc, du coup, on pouvait avoir des robes beaucoup plus près du corps, plus corsetées. Donc, on passait du blio en forme.
Ah, c'est la tunique.
La tunique. Et à des robes, oui, plus près du corps, plus chatoyantes, quoi, où les femmes se mettaient un peu en valeur. Mais c'était très drôle comme période. Il y avait une mode, comme vous dites, effectivement, puisque les femmes, vous savez, se mettaient du rouge sur les lèvres, mais juste sur au milieu des lèvres. Elles s'épilaient le front pour avoir un front très très haut. Elles s'épilaient les sourcils aussi. Non, elles étaient extrêmement coquettes. Et elles se lavaient. On se lavait au Moyen-Âge. C'est après où on ne s'est plus lavé.
Et on se lave les mains avant de passer à table.
Et on se lave les mains avant de passer à table, puisqu'au château de Clisson, il y avait des étuves. Comme dans beaucoup de châteaux aussi.
Donc c'est un Moyen-Âge qui est bien différent, et heureusement bien différent de ce qu'on peut voir. Il y a aussi la découverte de mots un peu oubliés qu'on voit dans votre livre, ça j'adore. Alors on voit le hanap, le pelisson, la buzine, le faucre. Vous aimez ces mots-là?
J'adore, oui. J'essaye de les réemployer, mais j'avoue que ça tombe un peu à l'eau souvent dans les dîners ou les conversations.
C'est sûr, donnez-moi un hanap de vin. C'est sûr que dans les dîners, il y a un petit blanc.
Une ventrière, par exemple. C'est magnifique, le mot ventrière.
Alors, c'était quoi une ventrière?
Une ventrière, c'est une femme qui aidait à accoucher. Et c'est rien qu'en écoutant le mot, on sait ce que c'est. Il n'y a pas besoin d'explication, je trouve.
Remettez votre pelisson. J'ai peur que vous n'attrapiez froid, n'est-ce pas? Il est temps de partir à l'abordage de vos secrets, Laure Buisson, et plus précisément vos secrets d'écriture. Et la bataille sera féroce. Plus prosaïquement, c'est l'heure du procès verbal. Votre nom?
Buisson.
Votre prénom?
Laure.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Assise.
Sur ordinateur ou sur papier?
Sur papier.
Vous êtes chez vous ou vous êtes au café?
J'ai commencé au café et maintenant je suis chez moi.
Et quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Je vois mes voisins, enfin les immeubles d'en face, et j'adore ça.
Avez-vous un rituel avant ou pendant l'écriture?
Me faire une grande théière de thé vert.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez?
Ça dépend. De toute façon, déjà mon portable est sur vibreur. Donc si vraiment je suis concentrée, en fait, je l'entends pas, donc je réponds pas.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi?
Elle ressemble à Kaamelott, en fait. C'est-à-dire que je me plante devant la télé et je regarde un épisode de Kaamelott, souvent. Ou une série un peu idiote, juste histoire de me vider la tête et l'esprit. Et puis, avant d'y retourner, quoi.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde, juste avant de vous mettre à écrire.
Longue.
Un mot pour la seconde qui suit le point final.
Soulagement.
Merci Laure Buisson pour ce procès-verbal. Retrouvons-le. La mer, ses vagues, ses créatures, ses calypsos. Oh, mais alors ça tombe très bien parce que c'est Calypso Valois qu'on va entendre avec Le Jour. Et promis, ce prénom n'est pour rien dans notre choix. C'est l'écume du hasard. Amuse-bouche sur France Inter jusqu'à 20h avec Laure Buisson qui raconte la première femme pirate de notre histoire. Et savez-vous, Laure Buisson, qu'il existe des marins immobiles dominant leur vaisseau de papier, spécialistes de l'encre forcément? Ce sont les libraires. Et ces navigateurs, ils ont une drôle d'habitude, ils nous téléphonent. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est à cette heure-ci. C'est le... Oh!
C'est pour moi.
Ça, c'est de l'olifant. Allô?
Allô, bonsoir, c'est Isabelle, j'appelle pour l'apéro.
Je vous distingue dans la brume, Isabelle, à l'avant de mon amuse-bouche. Ne seriez-vous pas Isabelle Couriol de la librairie de Paris à Saint-Étienne ?
C'est tout à fait ça.
Bienvenue à bord, Isabelle, j'ai reconnu votre vaisseau et là, il faut que je me calme un peu.
Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir.
Et dites-nous, Isabelle, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez entendue dans votre vaisseau amiral, c'est-à-dire dans votre librairie ?
Eh bien, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, nous avons créé un site internet librairiedeparis.com, comme dans un certain nombre de librairies, il y a eu des sites internet. Et nous, Librairie de Paris, arrivait au début des sites et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de Parisiens nous commandaient des livres. Ce qui était le plus drôle, c'est quand ils nous appelaient, qu'on leur expliquait qu'ils allaient devoir faire 500 km pour retrouver la librairie de Paris, qui n'était pas du tout à Paris, en fait.
Mais c'est traître, ça, Isabelle. Moi, j'aurais fait la même erreur, vous imaginez ?
Voilà.
Et comment vous faisiez, du coup, vous les renvoyez, les livres ?
On leur les envoyait par courrier, tout simplement.
Quel est le roman que vous conseilleriez à notre invité, Laure Buisson ?
Eh bien, je lui conseille Les filles au lion de Jessie Burton chez Gallimard.
Ah oui, oui. J'avais lu le premier qui s'appelait Le miniaturiste.
Et qui s'est vendu à 500 000 exemplaires.
Et qui était un livre extraordinaire, effectivement.
Vous pourrez lire ce deuxième livre qui est aussi extraordinaire pour trois bonnes raisons. D'abord, c'est aussi un roman historique, même si c'est une histoire beaucoup plus récente. On est à Londres en 1967. Et dans l'Andalousie de 1936, donc, qui dit Espagne, dit guerre d'Espagne. La deuxième raison, c'est que ces deux femmes, alors elles ne sont pas pirates pour deux sous, celles-là, hein, mais elles ont vraiment envie de se réaliser dans la vie. Il y a Odelle, qui est la narratrice, et qui, elle veut devenir écrivain. Et en 1967, quand on vient de Trinidad, qu'on est noir et qu'on vit à Londres, et ben, c'est pas facile. Et l'autre jeune femme, c'est Olive. En 1936, elle veut devenir peintre. Et peintre pour une femme dans ces années-là, c'est pas facile. Même si on a un papa qui est vendeur de tableaux, il croit pas du tout les femmes peintres à l'époque.
Donc c'est deux femmes qui essaient de réaliser leur rêve finalement.
Du moins l'une qui raconte l'histoire de l'autre en fait, qui va faire une enquête autour du grand secret qui va les rapprocher à travers 30 ans d'âge, autour d'un tableau. Un tableau qui s'appelle Les filles au lion, qui a été hérité par le petit ami de la première jeune femme, Odelle. Et ce tableau, eh bien, il est entouré de mystères. Et pourtant, quand il arrive à la galerie d'art où elle travaille, c'est le branle-bas de combat, parce que c'est une trouvaille extraordinaire, et entourée de secrets. Et tout ce livre nous raconte cette intrigue. Avec beaucoup de talent, avec beaucoup de sensualité, avec beaucoup d'émotion aussi.
Une intrigue autour d'un trésor, en fait. Donc c'est un peu quand même aussi l'histoire de femmes pirates. Oui. Vous nous redonnez, Isabelle, les coordonnées, les références du roman ?
Donc, Les filles au lion de Jessie Burton chez Gallimard.
Merci Isabelle Couriol de la librairie de Paris à Saint-Étienne. Merci au magazine Page, capitaine de tous les libraires dont le numéro de printemps vient de paraître en plus spécial polar. Nous vous attendons pour un Anap de Cervoise, Isabelle.
Avec beaucoup de plaisir.
Voilà, entre deux porcelets rôtis et un montreur d'ours, quelques buzines. Voilà, je sais même pas ce que c'est que les buzines, mais il y en aura.
C'est des trompettes.
C'est des trompettes. Bah,
vous voyez. Des longues trompettes.
Et il y en aura des
musiques. Voilà, de la musique, c'est normal.
Isabelle, j'étais venue signer dans votre librairie.
Oui, bien sûr, Laure. Et puis je connaissais bien vos beaux-parents
oui.
aussi.
Et puis vous embrassez le petit. Hein, et vous n'oublierez pas
ça.
De ramener la baguette de pain ce soir. Hein.
J'avais beaucoup de plaisir, mais j'aurais beaucoup de plaisir à vous accueillir
quand vous voulez.
À Saint-Étienne.
Merci Isabelle et bonne soirée. C'est l'heure des inavouables. Oui, Laure Buisson, parce qu'on a beau braver les tempêtes, on n'en reste pas moins faillible. Y a-t-il une chanson, un film, un livre, catalogué non fréquentable et que pourtant vous affectionnez ?
Une chanson. Alors, j'ai Les Lacs du Connemara de Michel Sardou.
De Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. On l'a pas encore eu celui-là, tiens.
Ah oui ?
Ouais. Et pourquoi est-ce que vous vibrez pour Les Lacs du Connemara de Michel
pour
Sardou ?
Pour le rythme, je sais pas, ça me donne envie de chanter. J'ai envie de me lancer dans une danse, vous savez, ces danses où on tourne en se tenant par le bras, une chaîne, quoi, en fait. Une
danse
une branle,
celtique.
Quoi. Voilà,
oui.
Une...
Et en parlant de rythme, je crois que ça ressemble à ça.
On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme.
Ça vous donne pas envie de penser, ça ?
Si.
Et ça, je l'ai écouté en boucle pour toutes mes scènes de bataille. Parce que ça me donnait une espèce d'énergie Et là, j'en ai tranché des têtes sur Michel Sardou, je peux le dire.
Vous savez qu'il n'a pas mis les pieds en Irlande.
Non, non,
en Écosse, en fait. Il voulait écrire une chanson sur l'Écosse et l'Irlande, il n'y avait pas mis les pieds, et il a écrit ça à partir d'un dépliant touristique. Faut le faire, hein.
Ouais, ouais, mais il est fort.
Il est fort. Mais vous, vous êtes allé en Bretagne, d'ailleurs, pour votre livre. Vous avez sillonné un peu la France et les régions de Jeanne de Belleville.
Je suis partie avec ma petite valise. Je suis allée dans le Poitou, à Montaigu, là où elle est née. Je dormais à l'hôtel des voyageurs. J'ai plein de souvenirs là-bas.
Donc, vous n'avez pas fait comme Michel Sardou?
Non, je suis allée à Vannes, à Brest. Non, j'ai sillonné toute la Bretagne.
Est-ce qu'il y a un film dans vos inavouables ambitions?
Un film?
Oui.
Alors, un acteur, Charles Bronson. J'adore Charles Bronson et j'ai une affection particulière pour son plus mauvais film. Parce qu'en fait, c'est le seul film où il a eu un rôle principal. Il a joué dans des films incroyables, comme Les Sept Mercenaires. Et il était toujours au milieu de plein d'autres acteurs. Là, dans ce film-là, qui s'appelle Le Justicier, il a le rôle principal.
Et ça s'appelle même Un Justicier dans la ville, parce qu'il y en a quatre.
Il y en a quatre. Et la série, dès qu'il y en a un à la télé, je l'avoue, je le regarde.
Hé, il y a un problème?
Quoi?
Cette voiture, qu'est-ce que vous en faites?
Tire-toi de là, du coup, tu veux aller, taille-toi.
On la pique, cette tire, ça te regarde, tête de gland?
C'est ma voiture. On va te crever.
Non, mais on y croit pas un seul instant. Et il faut savoir qu'il est architecte. Le jour,
qu'est-ce qui s'est passé?
Et justicier la nuit.
Et ça, vous n'y croyez pas?
Non, c'est une telle apologie de l'autodéfense que c'en est risible.
Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre, considéré comme un chef-d'œuvre, qui vous tombe des mains?
Oui, Le voyage au bout de la nuit de Céline.
Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas?
Alors, en fait, c'est ce que les Céliniens appellent la petite mélodie.
Pour vous, c'est vous préférez les Buzines?
En fait, je ne suis pas sensible, effectivement, à la musique de son écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque temps, je lisais une bio quand même sur Céline, et Lucette, donc sa femme, expliquait que l'écriture de Céline ressemblait au jazz. Et en fait, il se trouve que je ne suis pas sensible au jazz non plus. Donc je me dis qu'il y a peut-être une relation, effectivement. À côté de ça, je suis allée entendre Fabrice Lucchini déclamer Céline. Et là, ça a été autre chose. Donc je me demande si effectivement Céline n'est pas un auteur que je ne devrais pas lire, mais plutôt écouter.
Écouter, comme au Moyen-Âge, quand on disait qu'on
voilà,
avait lu un livre.
Voilà, donc on en revient toujours au Moyen-Âge.
Et c'est sur ces mots que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Tout le monde sur le pont, pour ce qu'il me plaît, avec un S, de Laure Buisson, est paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevrons Annie Va pour Dans quelle France on vit, paru chez Fayard. L'amuse-bouche à gouvernail, Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et David Federman. Après 20h, ce sera D'ici d'ailleurs de Zoé Varier. Bonne semaine et n'oubliez pas de garder un pirate au fond de vous. Je vous embrasse, Moussaillon, et à samedi prochain.